toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents ce soir, de nouveau, j'allais dire, même si les températures nous inviteraient plutôt à rester tranquillement chez soi, bien au chaud. Je prends la parole très rapidement, et Laurence et moi, on va prendre la parole très rapidement pour remercier et vous présenter Sylvain Teul, mon collègue et ami philosophe, qui a accepté cette année de se lancer dans l'aventure de Philomania, de l'animation des cafés philo, ce soir donc pour la première fois. Donc Sylvain, ça fait 10 ans qu'il enseigne au lycée Jean Zay, 10 ans qu'on cohabite avec grand plaisir au sein de ce lycée. Sylvain est agrégé de philosophie, professeur donc dans le secondaire ici même au lycée Jean Zay, mais également chargé de cours dans le supérieur. Cette année à l'université d'Orléans, tu animes un cours sur les sciences humaines, et également auprès de la formation des infirmiers, infirmières, à Blois, à Tours, à Amboise, enfin dans plusieurs IFSI, Institut de Formation Supérieure des Infirmiers et Infirmières de la région centre. Et puis tu assures également les cours de préparation des élèves pour Sciences Po Paris, je crois que c'est tous les samedis matins, c'est bien ça ?
Pour eux, oui, pas pour moi, mais un peu plus léger, mais c'est le samedi matin quand même, ouais.
Voilà, au lycée Potier. Donc voilà, donc Sylvain, il a un emploi du temps bien chargé, très investi, comme vous voyez, dans le domaine de la philosophie, et il prend sur son temps pour venir animer ce café philo. Je le remercie très sincèrement et très chaleureusement. Un grand merci.
Il me semble que la chance que nous avons d'avoir Sylvain Teul est encore plus grande, si on doit ajouter à ta carte le fait que tu assures aussi la prépa pour nos collègues qui passent l'agrégation. Ouais. Donc vraiment, voilà, toutes les cordes sont à ton arc et on a vraiment plaisir à t'entendre ce soir animer ce café philo pour la première fois. Voilà, donc on te passe la main, Sylvain, et puis bonne soirée et bonne animation.
Voilà. Merci beaucoup Nicolas, Laurence, puis aussi merci Marie-France et puis l'ensemble du bureau pour cette proposition de vous rejoindre. Je suis très, très heureux et très, très honoré de la proposition. Moi-même, comme Nicolas l'a dit, ça fait 10 ans que je suis au lycée, je suis venu de temps en temps au Café Philo, depuis 10 ans en fait, hein, ça fait relativement longtemps que j'y viens avec plaisir, et l'idée de devenir animateur aussi me plaît, et c'est pour ça que je suis très content d'être avec vous. Pour les présentations, quelques mots. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre la séance aujourd'hui du Café Philo. Peut-être vous avez l'habitude, peut-être ceux qui n'ont pas l'habitude, pour vous présenter un peu le fonctionnement, on va commencer par faire quelques propositions de sujets. Donc c'est à vous de proposer quelques sujets, on va les noter, et puis ensuite on va décider par un vote quel sera le sujet de ce soir. Donc la parole est à la salle pour faire les propositions de sujets.
On a dit un sujet par personne.
Ah oui, précise, un sujet par personne, si possible, en tout cas de façon à ce qu'on ait le plus de sujets possible.
Et qu'on donne la parole prioritairement à ceux qui n'ont pas parlé.
Après, on dira ça pendant la discussion.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon sujet est-ce que c'était mieux avant ?
Est-ce que c'était mieux avant ?
Ma question, c'est pourquoi a-t-on besoin d'inventer des histoires et pourquoi on a besoin de lire les histoires que les autres créent ?
Pourquoi inventer et partager et lire des histoires ? Pourquoi inventer et partager des histoires ?
Mon sujet, c'est le couple a-t-il encore un avenir ?
Oui, je crois que celui-là, on l'a vu il y a un peu près un mois. Donc, le couple a-t-il encore un avenir?
Les différences sont-elles des inégalités?
Les différences sont-elles des inégalités? Toute différence est-elle une inégalité? Toutes ou les différences? Toutes, allez, les différences, mais je pense qu'on peut comprendre sous quelle forme. Les différences sont-elles des inégalités?
Pourquoi fait-on tout le temps les mêmes erreurs?
Pourquoi fait-on tout le temps les mêmes erreurs?
Le bonheur est-il un choix?
Donc, le bonheur est-il un choix?
Le dieu de l'économie et son archange la technique sont-ils l'avenir de l'humanité?
Donc on regarde sous cette forme avec le dieu et l'archange, d'accord. Donc le dieu de l'économie et son archange et la technique sont-ils l'avenir de l'humanité?
Le dieu de l'économie et la technique, c'est ça?
Donc voilà, l'économie et la technique sont-ils le dieu de l'humanité?
Non, les archanges, non. Le dieu de l'économie et la technique
sont-ils l'avenir de l'humanité?
La technique. L'avenir de l'humanité.
Que signifie pardonner?
Que signifie pardonner?
Bonsoir. Alors moi, c'est une citation d'Audiard que je propose de commenter. C'est un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche.
Voilà.
Donc un intellectuel assis va-t-il moins loin? On avait ce genre de questions qu'un con qui marche. C'est Michel Audiard, donc le cinéaste, c'est ça? Ou Jacques?
Un con qui marche. Un intellectuel assis va-t-il moins loin qu'un con qui marche? On en est à 10, on va arriver à 10 sujets là.
On a 9 sujets. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'il y a encore d'autres propositions? On a 9 sujets, il y a des choses très différentes. Bon, on peut essayer de voter pour les différents sujets. Peut-être pour vous rappeler le principe du vote, vous pouvez voter pour plusieurs sujets. Donc on va les relire. Pour que vous les ayez en tête, vous pouvez décider de voter pour tous les sujets qui vous plaisent.
Voilà, sujet 1. Est-ce que c'était mieux avant? 2. Pourquoi inventer et partager des histoires? 3. Le couple a-t-il encore un avenir? 4. Les différences sont-elles des inégalités? 6. Pourquoi fait-on tout le temps les mêmes erreurs? 5. Là, vous voyez, la preuve, hein, c'est une erreur. 6. Le bonheur est-il un choix? 7. Le dieu de l'économie et son archange, la technique, sont-ils l'avenir de l'humanité? 8. Que signifie pardonner? Et 9. Un intellectuel assis va-t-il moins loin qu'un con qui marche? Donc, le premier sujet, est-ce que c'était mieux avant?
Oui. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Et moi
28.
Ouais, 28. Donc 28 voix pour.
Est-ce que c'était mieux avant? Deuxième sujet, pourquoi inventer et partager des histoires?
Donc 21 votes pour pourquoi inventer et partager des histoires.
3. Le couple a-t-il encore un avenir?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Je m'étais à 6. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 21, 32, 33. C'est demain, ça va après.
33.
D'accord. Ensuite, les différences sont-elles des inégalités?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
28.
28.
Ensuite, pourquoi fait-on tout le temps les mêmes erreurs?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, non? Je pense que c'est 13. De toute façon, ça.
Ouais. Le bonheur est-il un choix?
Je fais à gauche, je fais à droite. 17. J'en ai 17 ici.
Moi, 18.
22. Ensuite, le dieu de l'économie et son archange la technique sont-ils l'avenir de l'humanité?
11, oui.
Que signifie pardonner?
Oui, j'en étais à 21.
21 et 12, 33. Que signifie pardonner 33?
Comptez,
33.
Mais comptez.
Ah, 34.
Oh, ensuite, le dernier. Un intellectuel assis va-t-il moins loin qu'un con qui marche?
J'en ai 14 à droite.
J'en ai trouvé 20 au total.
21
incluant. Oui.
Bon.
Donc à une voix près, le sujet qui a été choisi préféré est que signifie pardonner avec 34 votes.
34 voix, voilà.
Donc nous allons après à partir de là démarrer. Donc peut-être pour vous rappeler un tout petit peu le fonctionnement, si possible, essayer de ne pas faire trop long pour permettre au maximum de personnes de prendre la parole. Et on applique aussi une petite règle qui est priorité à celui qui n'a pas encore parlé.
Bien près du micro, dans l'axe du micro, pour que tout le monde vous entende bien. Oui, dans l'axe du micro, près du micro.
Et puis la personne qui a proposé son sujet, que signifie pardonner, c'était, voilà, si vous voulez nous présenter un petit peu votre idée derrière le sujet.
L'idée est très personnelle,
personnellement, moi j'ai une approche un peu scientifique, j'ai tendance toujours à expliquer, à chercher une explication de choses. Donc quand quelqu'un a fait quelque chose de répréhensible, j'arrive toujours à trouver pourquoi il a fait, à voir pourquoi il a fait ça, pourquoi il en est arrivé là. Et on me dit toujours, oui, mais toi, t'expliques tout, tu pardonnes tout. Et ça m'a toujours interrogé, parce que les gens ont tendance à condamner. Moi, j'ai pas de tendance à condamner. Donc, ou si tu le pardonnes, ou si tu... Ça a toujours été un petit peu flou pour moi. Alors, j'essaye d'expliquer. C'est pas parce que je pardonne que je considère pas que la personne ne mérite pas, en cas extrême, d'aller en prison pour la... se protéger elle ou protéger en cas décisif. Mais c'est vrai que moi j'aurais avoir une tendance à pardonner, et je vois qu'autrement c'est pas le cas, donc voilà, je suis un peu étoffé mes interrogations, parce que j'ai tendance à tout pardonner, ce qui est sûrement pas forcément juste. Voilà.
D'accord, donc oui, vous avez dit pardonner, vous avez dit expliquer aussi.
Oui.
Ouais, d'accord, c'est déjà un point en fait, je pense.
Oui, puis il y a le droit à une deuxième chance, ou... En termes de juridique, on dit qu'il y a prescription, c'est une forme de pardon, mais la personne a quand même fait cet acte-là. Donc voilà, c'est un peu c'est un sujet qui me titille et je n'ai jamais vraiment trouvé de réponse. Il n'y en a peut-être pas forcément, il y en a sûrement plusieurs, mais voilà, pour alimenter le débat.
Ok, donc il y a effectivement aussi la question de savoir jusqu'à quel point c'est ça, jusqu'à quel point on peut pardonner. Est-ce que quelqu'un veut réagir ?
Donner le pardon à quelqu'un, c'est souvent aussi se pardonner à soi-même des idées ou des vérités qu'on aurait pu asséner sur une situation. Alors, il y a des cas effectivement extrêmes avec des meurtres, des choses comme ça qui sont voilà, compliquées, où la justice vient s'en mêler. Mais on peut très bien avoir vis-à-vis de la personne à qui on veut octroyer son pardon, avoir eu des pensées qui ne sont pas les plus humanistes quels qu'ils soient. Et je pense que pour donner le pardon à quelqu'un, il faut aussi savoir se pardonner d'avoir eu des réactions ou des idées qui ne sont pas toujours très chouettes, on va dire, pour être capable ensuite d'être serein et de se dire « Ok, émotionnellement, je suis capable d'analyser les choses avec, comme disait monsieur, pragmatisme et sérénité ».
C'est-à-dire des idées de vengeance
par exemple. Ouais. Alors sans parler que j'avais pas ça en tête, hein, parce que la vengeance c'est pas forcément dans mon scope de réaction, mais de la colère, des invectives, des mots qui vont dépasser, comme on dit souvent par la colère, notre pensée. Hein, donc voilà. Mais il peut aussi effectivement y avoir la vengeance derrière.
Ok.
Moi, je m'interroge sur qu'est-ce qu'on va pardonner. Est-ce qu'on parle d'erreur ou de crime ? Il faut peut-être situer le sujet par rapport à ça. Et le crime, s'il m'affecte personnellement, si on a assassiné mon enfant, je vais peut-être pas me positionner de la même manière sur la notion de pardon. Ça peut être plus difficile que la démarche un peu détachée de... pardonner à un criminel qui ne m'a pas affecté, pour lequel je vais comprendre ou faire avoir une vision de réinsertion, de rédemption, mais voilà. Et donc aussi sur l'intentionnalité qu'il y a ou la malveillance dans l'acte dont on parle à pardonner, ça va peut-être aussi influer sur la notion de pardon.
Oui, il y a effectivement l'idée d'erreur, peut-être on peut l'opposer à l'idée de faute. L'erreur n'a pas forcément l'aspect moral qu'il y a dans l'idée de faute. Effectivement, c'est moi qui...
Alors moi je m'interroge en fait sur la source du pardon. D'où est-ce qu'il est né ce pardon, d'où il vient parce qu'effectivement ça fait partie de notre quotidien et de notre vie d'être amené à pardonner. Mais comment il est arrivé jusqu'à nous ?
L'origine ou le motif ? Enfin, il y a l'origine, pardon, qui nous pousse à pardonner, nous, personnellement, enfin, oui.
Alors, moi, de l'autre côté, justement, je m'interroge sur la destination du pardon. Parce que le pardon, en fait, me paraît être une démarche, on va dire, personnelle au niveau individuel, plus que ne l'est, comme c'était dans le propos introductif, en fait, on parlait pas seulement de pardonner, mais d'expliquer un geste. On peut expliquer un geste de façon plus ou moins objective, un comportement ou une action qu'on nous rapporte ou dont on est témoin. Le pardon, par contre, on va plutôt avoir tendance à pardonner ce qui nous est arrivé, ce qui nous concerne personnellement. Quelqu'un qui a enlevé, qui est responsable de la mort d'un proche, je choisis ou non, ou est-ce que j'en suis capable, hein, de lui pardonner. Un fait divers, si ça ne me concerne pas a priori, est-ce que c'est un pardon que je dois accorder? Ou est-ce que c'est simplement, je comprends le geste, un crime passionnel, une vengeance, mais ce n'est pas à moi de le pardonner, ce n'est pas ma place en soi de pardonner ou pas cet acte. Donc moi, ce qui m'interroge en fait, c'est à quel moment est-ce qu'on est dans une démarche personnelle, individuel, qui fait sans doute appel à nos émotions, à nos affects, et à une démarche plus explicative, plus générale.
Oui, clairement, il y a une différence. On sent bien que n'importe qui peut expliquer n'importe quoi, mais comme tu le suggères, n'importe qui ne peut pas pardonner n'importe quoi, et que clairement, on attend seulement de certaines personnes qu'elles puissent pardonner, pas de n'importe qui. Typiquement, on ne pardonne pas quelque chose qui ne nous concerne pas du tout, quoi. Alors qu'on peut très bien expliquer quelque chose qui ne nous concerne pas du tout. Je suis d'accord.
Oui, effectivement, le pardon, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Le Christ le conseillait à tout le monde, hein. Même à celui qu'il a fait tuer, hein. Il l'a presque remercié. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des choses qui sont absolument impardonnables, parce qu'elles sont inscrites dans notre tête et dans notre cœur. Je vais vous donner un petit exemple. Quand j'avais 6 ans, j'ai vu à la télévision, à l'époque, il y avait déjà la télévision il n'y a pas longtemps, Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Je peux vous dire que cette chose, pour moi, est absolument impardonnable et que j'en ai toujours la mémoire et que pour moi c'est quelque chose d'absolument affreux. C'est pas pour ça que je réclamerai une vengeance ou quoi que ce soit, mais c'est impardonnable.
Oui, je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure là-bas. Pardonner, effectivement, moi j'aimerais bien qu'on puisse donner une définition, hein, s'il y en a une en particulier, parce que selon qu'on est dans le domaine religieux, social, moral, individuel ou collectif, on n'a peut-être pas forcément les mêmes références, hein, et que, effectivement, selon que ça nous touche individuellement ou collectivement, hein, moi j'entendais quelqu'un l'autre jour, par rapport aux événements du Bataclan, dire « je pardonne, je suis dans une phase de pardon par rapport à une personne proche qui a été abattue, hein. ». Voilà, bon, moi ça m'interroge, effectivement, donc, je voudrais que si c'est possible qu'on puisse un peu prendre du recul sur, parce qu'on là on part dans une discussion large, qu'est-ce qu'on y met sous le terme de pardon selon l'approche, le domaine dans lequel on demande de pardonner, et puis si c'est un titre individuel ou collectif.
Bonsoir, j'avais un commentaire et une question. Le commentaire, c'est qu'on est vite monté dans les tours. Là, on parle d'un crime, un enlèvement, de nazis, du Bataclan. Je pense qu'il y a des choses de la vie quotidienne aussi qui relèvent du pardon. Je ne sais pas, quelqu'un qui laisse se refermer la porte sur vous quand vous passez, des choses comme ça, ça peut évidemment nous contrarier. Il faut voir ce qu'on fait après, si on pardonne ou pas. Et ma question, c'était, alors madame, juste avant moi, l'a posée. Avant, c'était ça, qu'est-ce que c'est le pardon en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on se retrouve dans un état comme avant l'événement, comme si c'était rien passé? Voilà, c'est pas forcément clair pour moi ce que c'est.
Oui, tout à fait, c'est sûr. Effectivement, dans une circonstance où, je sais pas, on marche, on bouscule quelqu'un par maladresse, on lui demande pardon, la personne en général nous donne tout de suite son pardon, il n'y a pas d'hésitation. Sauf si la personne a l'impression qu'on l'a fait un peu exprès, en fait. Si on l'a bousculé exprès, on ne peut pas juste dire excuse-moi alors que la personne a compris qu'on l'a bousculé volontairement. Sans doute cet aspect compte, en fait, finalement. Si c'est très clair que la personne n'a pas voulu nous nuire, on la pardonne instantanément. Si, c'est pour ça qu'en fait on est très vite monté dans les tours, comme vous dites. Parce que justement, dans le cas du crime, on ne peut pas juste dire je l'ai fait exprès, quoi. C'est beaucoup plus d'enjeux. Mais sur des choses plus anecdotiques, il y a effectivement l'impression que c'est anecdotique, ouais. Enfin, c'est sans importance morale.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai une approche très juridique en fait de la question. C'est-à-dire, en droit, on dit est-ce qu'il y a une bonne foi ou une mauvaise foi. C'est-à-dire que si l'intuition du départ, elle n'était pas mauvaise, et il y a un accident qui s'est produit, c'est plus facile de pardonner, alors que si l'intention du départ était purement vraiment mauvaise, là c'est plus problématique, parce que donc il y avait vraiment une volonté de nuire autrui, quoi. Donc c'est dans le cadre juridique, il y a quand même aussi des lois qui définissent comme ça des.
Oui, je voulais citer un chanteur qui a longtemps été exilé politique au Mali, qui est originaire de Côte d'Ivoire, qui a une chanson qui dit « Il faut pardonner, mais jamais oublier ». Ça, c'est une première petite nuance. Je pense qu'on peut pardonner sur certaines choses qui nous touchent, effectivement, oublier me paraît impossible. Et la deuxième notion que je voulais partager, c'était la réinsertion, notamment dans le cadre carcéral. Pour moi, le pardon a une fonction sociale pour ne pas faire exploser la société. Et si on prend quelqu'un qui a été condamné, qui fait sa peine, si on n'accepte pas qu'il ressorte un jour, ça veut dire que quelque part on le condamne à mort. Et la peine de mort, aujourd'hui, elle n'existe plus en France. Donc, la réinsertion, voilà, ça me paraît une forme de logique qui fonctionne bien pour la société.
Toute la difficulté étant que justement, s'il y a sanction, c'est qu'il n'y a pas pardon. On ne peut pas dire je te sanctionne puis je te pardonne. Justement, la sanction est là parce que la personne n'a pas été pardonnée. On a peut-être l'impression que justement, si on pardonne, la personne n'a pas besoin d'être sanctionnée. On la libère de sa responsabilité. C'est difficile, si on parle de l'aspect juridique, de savoir si le procès demande un pardon ou mène à un pardon ou s'il est indépendant. Enfin, c'est pas évident. On a plutôt l'impression que si la peine s'applique, c'est justement parce que la personne n'est pas pardonnée, qu'elle fait sa peine. Mais par contre, effectivement, une fois que la peine est exercée, là, le compteur revient à zéro, ce qui est le jeu du système.
Bonjour. Je voudrais revenir sur ce que monsieur a dit juste avant. Sur la notion plus de pardonner, est-ce équivalent à oublier? Je n'ai pas d'avis à émettre là-dessus pour l'instant, du moins, mais plus ouvrir le débat sur le fait que oublier, ça, pardonner, aussi comme l'exemple de la porte que donnait monsieur tout à l'heure, de se faire claquer une porte sur les doigts et puis de pardonner directement parce que la personne n'a pas fait exprès, c'est aussi accepter de ne pas s'encombrer la tête de choses futiles pour s'occuper de d'autres autrement peut-être plus importantes. Et donc, pardonner dans ce cas-là, c'est égal à oublier, mais dans le cas de la justice, on aura toujours, dans notre dossier judiciaire, écrit « a été en prison ». Donc, c'est pas oublier, dans ce sens-là.
Oui, je voulais juste donner un rappel de l'étymologie de « pardonner ». Qui vient du latin, c'est d'origine latine, per pour perfection, perfectionner, et donare pour donner pleinement. Donc c'est donner complètement, ça c'est l'étymologie du mot, et je pense que ça peut recentrer éventuellement les notions qui peuvent avoir plusieurs degrés, justement dans le pardon. On donne pleinement, on pardonne complètement. Ou pas, ou partiellement. Ce qui est intéressant, c'est oui, c'est pardonner, mais pas oublier, je suis tout à fait d'accord.
L'enjeu étant aussi justement de savoir ce qu'on donne. On on le donne complètement, mais on donne quoi complètement? C'est un peu le mystère. Justement, dans l'oubli, il n'y a pas ce don de quelque chose. C'est juste la disparition, pure et simple. Effectivement, dans le pardon, il y a quelque chose qui est transmis, mais évidemment, il faut le définir. Mais...
Oui, donc... il me semble en fait, le terme de pardon pour moi c'est quelque chose de très religieux, très catholique, très spécifiquement rattaché à la religion catholique. Mais par contre, comment dire, dans les réflexions sur ces questions-là, il y a, à mon sens, la réparation est quelque chose de fondamental. Le besoin de réparation, que ce soit se réparer soi-même. Je citerai une personne, une victime d'attentat il y a quelque temps, avec qui disait « Vous n'aurez pas ma haine », donc sa volonté de se réparer et donc de pardonner les coupables en refusant de les haïr et en voulant se reconstruire. Et on a aussi d'autres, comment dire, un autre champ important pour moi, ce sont des peuples comme les Tutsis, par exemple, un bon histoire du Rwanda, où en fait il y a eu tout un processus collectif dans le pays de réparation qui ne signifie pas d'oubli, mais qui signifie voilà, on a besoin de pouvoir revivre ensemble, donc il est nécessaire de trouver des moyens d'exprimer les choses, de punir éventuellement certaines personnes. Mais il y en a tellement qui sont coupables que de toute façon, il faut arriver à trouver une solution au travers du langage, essentiellement, pour arriver à réparer la situation et réparer la société.
Oui, pardon, suppose une action en amont qui n'a pas répondu à une réparation spontanée de la société ou qui, par l'ordre des choses, aurait pu trouver sa place. Ça suppose qu'on intervient par le pardon en face d'une action, soit qui, personnellement, vous est compliquée, soit parce qu'on pense que la société, est mise en point d'interrogation. Donc la question qui me vient à l'esprit maintenant, c'est est-ce que notre capacité de pardonner n'est pas liée aussi aux circonstances et l'implication dans laquelle nous avons été où nous sommes pour nous permettre d'atteindre, en ce qui nous concerne, une capacité à envisager cette prise de position. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
De la situation, d'accord.
Pour répondre à la question qu'est-ce que le pardon, je pense que c'est surtout une manière d'avancer et d'avoir une vie à peu près plus paisible. Surtout si on commence à s'attarder sur les gens qui nous claquent la porte sur les doigts ou alors sur quelqu'un qui nous trahit par exemple, pardonner ça aide à avoir une vie plus simple, mais ça ne veut pas dire pour autant oublier. Par exemple, je pense qu'on connaît tous le conte de la poule qui fait un pain et qui demande à tous les animaux de la ferme de l'aider et personne ne l'aide. À la fin, elle les pardonne et elle leur dit « bon bah mangez mon pain ». Mais elle leur dit quand même que la prochaine fois, si vous ne m'aidez pas, bah, c'est bien fait pour vous, quoi. Enfin, ça, il n'y aura rien. Et donc je pense que pardonner, c'est important, parce que si elle s'attarde sur le fait que personne ne l'a aidée, elle va juste y penser toute la journée et ça va pas être bénéfique pour elle. Mais il faut quand même pas qu'elle oublie, parce qu'elle va pas faire le pain pour tout le monde tous les jours, quoi. Voilà.
Pardon ou rumination, ouais. En fait, finalement, le pardon... débarrasse les ruminations possibles qu'on pourrait avoir, ça permet d'avancer.
Moi, c'était pour revenir sur la notion de est-ce que pardonner, c'est oublier, et à ce moment-là, enfin, quelle est la différence entre les deux. Et ben, je pense que oublier après avoir pardonné, c'est un peu un gâchis. Enfin, c'est un peu du gâchis, pardon. Parce que, en fait, pardonner, ça veut dire qu'on a souffert. Alors, ça peut être qu'on a souffert pendant 4 secondes parce que quelqu'un nous a tapé contre l'épaule, ou alors avoir souffert parce qu'il nous arrivait quelque chose de beaucoup plus grave, comme on en parlait au début, pardon. Mais pardonner, c'est un petit peu faire le cheminement de se dire j'ai souffert et je ne veux pas que les personnes ensuite souffrent comme moi-même ça a été le cas. Donc ça veut dire faire plus attention quand on referme la porte, parce que nous-mêmes nos doigts ont été poussés dans la porte et ça nous a fait mal. On a pardonné à la personne, mais maintenant on fera plus attention quand on fermera la porte. Donc c'est un petit peu une manière voilà, de développer son empathie, parce qu'on était à la place de cette personne qui sera la prochaine sur qui on refermera la porte sur les doigts. Et puis c'est aussi une manière de se sentir plus léger, parce que pardonner, encore une fois, si on oublie qu'on a pardonné, peut-être quand on s'en souviendra, on se dira c'était quand même pas cool, alors que si on a pardonné, on se dira pas finalement. Donc accumuler de la rancune, ça sert pas à grand chose quand on peut juste avancer et encore une fois apprendre des erreurs des autres pour ne pas les commettre et éviter aux autres de souffrir après de ses propres actions.
La question initiale, en fait, quand j'y repense, c'est donc, définir qu'est-ce que le pardon. Peut-être qu'une façon d'y répondre, c'est d'apporter deux autres questions auxquelles, en fait, on a déjà apporté des éléments de réponse. C'est pourquoi et comment. Pourquoi est-ce qu'on pardonne et comment est-ce qu'on pardonne. Pourquoi on pardonne. Donc, quand c'est quelque chose d'apparemment anecdotique, comme la porte sur les doigts, on s'est fait bousculer, on pardonne parce que c'est pas grave, on pardonne parce que l'autre ne l'a pas fait exprès, on pardonne parce qu'on a bien d'autres choses à penser qu'une déconvenue de ce style. Mais quand on fait face à des problèmes ou à des situations plus dramatiques comme la perte d'un proche, pourquoi est-ce qu'on pardonne? Ou plutôt, on se dit, pourquoi je devrais pardonner à quelqu'un qui m'a... Donc, Il n'y a pas de réponse unique, je pense, à ces questions. Il y a quelque chose qui apparaît souvent dans les œuvres de fiction, c'est j'ai perdu un proche, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu un ami, et je pardonne parce que cette personne-là, elle ne voudrait pas que je m'enferme en fait dans mon ressentiment. Ça peut être une explication. Donc il y a déjà cette notion de pourquoi est-ce qu'on pardonne, et il y a aussi comment est-ce qu'on pardonne. Parce que le pardon, c'est pas quelque chose forcément de simple à faire. C'est pas on n'impose pas une signature sur un contrat de pardon. On peut dire « je te pardonne », mais soit les mots sont difficiles à sortir, soit ils sortent, mais c'est difficile de faire en sorte qu'ils soient sincères. Donc en fait, la question, c'est comment pardonner. Ça appelle à une certaine introspection. Ça appelle à se poser la question de qu'est-ce qui se passe en moi quand je pardonne? Et est-ce que l'un des ressorts du pardon, c'est pas le fait de se dire cette personne-là, ce qu'elle a fait de mal, c'est peut-être moi qui aurais pu le faire aussi. Donc il y a peut-être, alors on n'a pas d'empathie, je ne sais pas si c'est un terme associé, mais en tout cas c'est cette notion peut-être de se dire, comme on peut le faire parfois quand on réfléchit à des attentats, ce genre de choses, on se dit ça aurait pu être moi. Donc c'est pas forcément, ça aurait pu être moi en tant que victime, mais ça aurait pu être moi en tant que fautif.
Oui, il y a un point effectivement délicat sur le comment. C'est est-ce que je peux pardonner tout seul intérieurement, puisqu'au fond quand il est question du ressentiment, du malaise, est-ce que je pourrais tout seul dans mon coin comme ça pardonner et puis passer à autre chose. Est-ce que c'est un pardon ou est-ce qu'il faut qu'il soit adressé à la personne, donc publiquement, que je le dise oralement ou par écrit, c'est pas la même chose. Et effectivement, on pourrait se dire qu'après tout, c'est une affaire plutôt intérieure, ou au contraire, c'est considérer que c'est quand même vraiment essentiellement public et que ça doit se montrer, que ça doit se dire, et que si la personne n'a pas reçu le pardon, ça n'a pas compté.
Alors en fait, il y a différents degrés effectivement de faute quelque part à pardonner. Et moi, tout à l'heure, j'ai vu une image, mais qui reste dans le cercle plutôt des intimes et des fautes peu graves. Et en fait, je me suis rendu compte que quand quelqu'un me blessait, que je restais bloqué contre cette personne, je me coupais en fait d'un humain. Et qu'à un moment donné, j'avais besoin de me relier de nouveau aux humains, et à cet humain entre autres. Et ce qui m'amenait effectivement, après un certain chemin intérieur, à donner mon pardon à cette personne et à aller lui dire en fait aussi.
Pour moi, dans le pardon, il y a une notion de rééquilibrage, on va dire, par rapport à, enfin, peut-être une dialectique entre une victime et puis un coupable, ou quelque chose qui doit retrouver, enfin, une forme d'injustice, ou quelque chose qui doit retrouver une forme d'équilibre ou de justice. Et je trouve que le fait d'essayer d'expliquer le comportement de la personne coupable, c'est assez intéressant. Je vais repartir sur des exemples extrêmes, mais un terroriste, essayer de comprendre d'où il vient, ça peut expliquer son geste, parce que ça peut être intéressant pour une victime ou pour un entourage de comprendre comment il en a pu arriver là, puisqu'on est quand même dans une forme de sidération. Est-ce que ça veut dire pardonner? C'est peut-être un premier point, parce qu'après on arrive aussi à des considérations qui sont plus sociales. Par contre, il y a quelque chose qui, moi, me semble impardonnable à mes yeux, et qui est sur un autre plan. Ça va être des personnes qui vont être alors plutôt dans une position de domination et qui vont agir avec cynisme. Par exemple, des cas où un patron d'une industrie pharmaceutique sait que son médicament il est mauvais, qui peut tuer des gens, et tout en le sachant, il va continuer à le commercialiser et ne rien dire. Et se dire, oh, bah, finalement, c'est pas grave. Et je pense qu'il y a pas mal de cas comme ça. Et pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui est dans une position de pouvoir et juste, il en a rien à foutre des gens. Il se dit, oh, bah, c'est pas grave. Et pour moi, il y a une espèce de mépris du genre humain et qui, pour le coup, est inexplicable à mes yeux et me mettrait dans une sidération. Et moi, je trouve que ce n'est pas pardonnable. Et du coup, je ne mettrais pas dans le même contexte un terroriste qui aurait tout un tas de raisons, peut-être d'explications à son geste, même s'il aurait tué des personnes, et quelqu'un qui, par cynisme, va avoir un comportement où il ne va pas tuer directement quelqu'un, mais parce qu'il n'a pas de considération, va amener aussi à des choses terribles.
Oui, on a l'impression que le pardon est un peu entre deux choses. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne sont vraiment pas responsables de ce qu'elles ont fait. Donc, elles ne sont pas du tout responsables. Il n'y a pas besoin de les excuser, de les pardonner. Et puis, il y a le cas, effectivement, où la personne est totalement responsable de ce qu'elle a fait. Et il est hors de question de lui donner un pardon dans la mesure où elle sait ce qu'elle a fait. Elle est parfaitement malfaisante. Et du coup, le pardon est une sorte de zone entre deux. Des personnes qui sont en partie responsables, mais pas complètement, parce que si elles étaient complètement, on ne les pardonnerait pas, et si elles n'étaient pas du tout, ce serait hors sujet aussi. Et en fait, la difficulté, c'est d'attraper justement cette zone un peu entre deux, des gens qu'on a envie de pardonner, alors qu'ils sont quand même en partie responsables aussi, quand même.
Oui, que fait-on quand l'offenseur...
Oui, c'est les personnes, effectivement, peut-être impardonnables, c'est ce que disait monsieur au début, il y a peut-être des personnes vraiment impardonnables qui refusent de demander pardon, qui ne changent pas d'avis, et où là, effectivement, la question se pose de savoir si elles méritent un pardon. Oui.
Oui, moi je pensais à des questions de valeur. Enfin, quand on pense par exemple au maire de New York qui vient d'être élu, donc il est musulman, il a tout pour ne pas plaire à Trump, enfin, si tu prends cet exemple-là. Donc c'est des questions de valeur, c'est-à-dire les valeurs du nouveau maire de New York. Je ne sais pas si vous avez suivi la campagne, et Donald Trump, c'est vraiment l'opposé. Alors, on ne sait pas comment ça va se développer. Mais je pensais aussi à Diderot, l'encyclopédie, quand il écrit certains articles, et c'est complètement opposé à l'Ancien Régime. Donc la question des idées, des valeurs qu'on défend, c'est jusqu'à où on peut les défendre. Par exemple, en Arabie Saoudite, vous avez un compte Twitter, vous risquez la pendaison. Donc pour nous, c'est la liberté d'expression. Pour ce régime-là, c'est vraiment c'est un crime. Donc les valeurs, enfin jusqu'où on veut défendre certaines valeurs. Et puis c'est là que la frontière, c'est-à-dire, c'est aussi avec la religion. Enfin, quand les ultra-catholiques, ils ont une certaine idée. Et puis après, il y a d'autres religions, les protestants. Enfin, les guerres de religion, c'est toujours jusqu'où la frontière blesse, quoi. Enfin, parce que c'est là enfin, on voit les idéologies quoi, qui sont compatibles.
Oui, je pense, en simplifiant un peu, on peut dire que les monothéismes, au moins les trois monothéismes, mettent le pardon, enfin, lui donnent un rôle très très important, quand même, très central, effectivement. Souvent, c'est plutôt Dieu qui est censé pardonner, mais dans les trois religions monothéistes, cette dimension du pardon est très forte. Alors que par ailleurs, dans les sociétés peut-être religieuses, au contraire, des pratiques qui seraient moins de l'ordre du pardon, ouais, peut-être, si c'est ce que vous suggérez.
Donc moi, je pense, notamment sur ce que avait dit la dame là-bas, elle avait dit que est-ce qu'on peut pardonner, même si ou un truc du genre... est-ce qu'on peut pardonner quelqu'un qui ne demande pas le pardon? Je pense que le pardon, c'est très individuel. En réalité, on pardonne surtout pour nous, parce que comme beaucoup de personnes ont relevé, ça nous permet d'avancer, etc. Pardonner, c'est accepter que ça s'est passé. J'entends pas accepter « Ah oui, il a fait ça, mais bon, c'était plutôt... c'était pas si horrible que ça. » Non, je dis accepter, par exemple pour un meurtre, accepter que ça s'est commis, que ça s'est passé. Pas accepter ce que la personne a fait, mais accepter que ça s'est passé et tourner la page. Et je pense que le pardon, ça amène aussi beaucoup de changements. Pardonner, c'est pas revenir comme avant, par exemple dans une relation. On peut pardonner pour avancer, mais ça ne veut pas dire que ça va revenir comme avant ou on va revoir la relation d'avant. Je pense que c'est très individuel.
Ouais, je reviens sur des choses qui répondent un peu à des questions, enfin des choses que j'ai entendues. Comment dire La nécessité d'évoluer, de faire ce qu'on appelle le pardon, effectivement, pour moi, c'est aussi lié à la question de la transmission des névroses, intrafamiliales par exemple, ou de génération en génération. Et je pense au texte de Randall Lang, en fait, qui travaillait là-dessus, sur la politique de la famille, et la transmission des névroses qui se transforme en psychose la génération suivante. Donc en fait, il y a une nécessité de traiter un certain nombre de traumatismes psychologiques au niveau individuel et également au niveau des sociétés, au niveau social. Quand une société sort d'un conflit avec un autre pays, par exemple, on voit ça en Europe centrale actuellement, il y a des réminiscences, des haines en fait, qui sont transmises de génération en génération, et qui continue en fait à être active en sourdine dans une société. On pense aussi en fait au conflit entre l'Arménie et la Turquie, avec le déroulement de ce qui vient de se passer au Karabakh, en fait qui est la suite d'un conflit centenaire. Donc il y a des conflits comme ça qui ont... Alors, il y a des choses qui sont au niveau individuel, et ensuite, les sociétés, ce sont des sommes d'individus. Donc, le traitement ou la façon de réparer, pour revenir à ce terme-là, n'est pas exactement le même. Par contre, la nécessité de réparer et la nécessité de pardonner, c'est un peu la même chose au niveau individuel ou au niveau collectif, je pense.
Donc une somme pourrait pardonner. C'est compliqué quand même, la somme d'individus pardonne, dans quel sens? D'autant plus que sur des événements historiques, parfois les personnes qui peuvent demander pardon ne sont pas les mêmes qui ont commis les actes et qui donc en fait ne sont pas concernées, et parfois les distances temporelles deviennent très longues. C'est-à-dire c'est un pardon formulé par des personnes non concernées à destination de personnes qui ne le sont pas non plus, puisque entre-temps, et d'autant plus que la responsabilité collective d'une parole est compliquée à établir. En fait. C'est-à-dire quand collectivement une décision est prise, qui en tant qu'individu est aussi responsable de ce qui est dit collectivement? Quand un homme politique prend la parole, est-ce qu'on assume la totalité des propos qu'il a tenus? Je pense que beaucoup de gens diraient non, en fait. Mais je comprends votre remarque, et c'est juste.
Je voulais revenir à une toute autre échelle. J'ai un petit laboratoire du pardon quotidien. J'ai deux filles, c'est des 10 ans. Et donc, on a des chamailleries, des bousculades, des jouets pris sans demander la permission, cassés, etc. Et donc, on est tous les jours dans la dynamique d'apprendre le pardon. Et moi, ce qui me ressort de cette expérience-là, c'est que pour elles, c'est toujours hyper important d'avoir la présentation des excuses, la reconnaissance de l'erreur. C'est-à-dire que l'une va pouvoir accorder le pardon s'il y a vraiment reconnaissance et qu'elle vient dire et demander ce pardon. Sinon, ça ne marche pas. Le fait qu'elle reconnaisse qu'elle a blessé, fait du mal, donc il faut qu'il y ait cette reconnaissance-là. Et après, dans cette notion d'éducation et d'apprentissage, on revient toujours sur le fait que il faut passer à autre chose, effectivement, parce que sinon on va rester dans le conflit, chacun dans son coin, vous faites du mal mutuellement, et revenir dans la dynamique positive du jeu ensemble et du plaisir, et c'est ça qui est mis en avant pour obtenir ce pardon. Et donc ça donne des idées, des images par rapport à ces petits pardons quotidiens qu'on expérimente avec les enfants.
Alors, je vais dire un peu la même chose que le monsieur derrière moi, mais pour moi, être quelqu'un qui se fait pardonner, c'est aussi très important de recevoir le pardon et de reconnaître notre faute quand on a fauté. Par exemple, si on a dit quelque chose de blessant envers un proche, parce que pour moi, le pardon, c'est beaucoup plus intime que quelque chose de global, je pense que c'est important à la personne de nous dire directement ce qu'on a fait et que ça les a blessés, parce que ça nous permet de nous construire mieux en tant qu'individu et de développer aussi notre empathie. Donc je pense que on peut aborder la question du pardon sur le fait de donner notre pardon, mais je pense que c'est tout aussi important de l'accepter et d'être pardonné aussi pour se construire nous.
Oui, tout à fait. Oui. On pourrait mettre les merci d'ailleurs au fond. Les merci et les pardons sont finalement des notions qui sont quasi quotidiennes et qui servent finalement à montrer notre préoccupation pour l'autre. L'autre lui-même manifeste sa préoccupation pour nous. Il y a une sorte de reconnaissance mutuelle par le jeu des pardons et des merci. Oui, tout à fait. Oui.
Par rapport au pardon, je voulais parler de la fonction du pardon, enfin d'une des fonctions possibles du pardon. Donc le pourquoi, c'est que pardonner, ça peut éviter pour des fautes ou des crimes collectifs ou individuels, des récidives. Quelqu'un qui est fautif collectivement ou individuellement, s'il y a cet acte de pardon, ça peut faire réfléchir, pour faire changer d'avis et qu'il n'y ait pas de récidive. Enfin, que la personne, effectivement, qui a commis une faute plus ou moins grave, puisse effectivement réfléchir et ne pas réitérer, alors que quand il n'y a pas de pardon, peut-être que ça peut être générateur de réitération de faute ou de crime à titre individuel ou collectif. Je ne sais pas si je suis claire.
Bon, là, j'ai entendu vraiment beaucoup de choses très intéressantes, pas toujours facile à comprendre, sur le pardon. Et il m'est venu une petite idée dont je n'ai pas entendu parler, c'est est-ce que l'amour et le pardon, il ne peut pas y avoir un rapport. Quand vous aimez vraiment quelqu'un totalement, vous ne pouvez pas ne pas lui pardonner. Moi, je pense ça, et je vous dis ça pas en tant que chrétien, je ne suis pas chrétien, je suis athée, hein, je ne suis pas catholique, et là, je vous dis, je n'aime pas les dieux, notamment le dieu de l'économie.
Oui, oui, l'amour, ou peut-être un peu plus modeste, l'idée de confiance, il y a aussi effectivement dans le fait qu'on fait confiance à quelqu'un, peut-être plus le besoin d'être réparé en cas de tromperie ou de...
Oui. Oui, bon, je reviens sur la question de départ, qu'est-ce que... Pardon. Après tout ce que j'ai entendu, je me rends compte que, je vais prendre un exemple trivial, c'est par exemple je suis bousculé, à ce moment-là, je vais avoir soit de l'agressivité, je vais en vouloir à la personne. Et le fait de pardonner, soit parce qu'il m'a demandé pardon, soit parce que trouver une bonne excuse, ça fait retomber cette tension qui s'est mise entre lui. Pour moi, à partir du moment où on est agressé, où il y a une attaque, il y a une tension, il y a un lien qui est entre les deux. Et pour moi, le pardon, c'est ça, c'est faire tomber ce lien. Et là, j'ai entendu récemment l'interview d'un père qui avait perdu son fils aux attentats du Bataclan. C'est un peu ce qu'il expliquait, qu'il en voulait toujours, mais qu'il n'était plus en colère. Qu'il n'oublierait jamais, c'est une évidence, qu'il pardonnerait jamais. Il parlait de pardon parce qu'il avait. Parce que ça, le lien d'agressivité, donc vouloir à la personne, était retombé. Il considérait toujours que la personne avait tort, parce que ce qu'ils avaient fait, c'était horrible. Et pour moi, le pardon, c'est un peu retomber cette tension. Je dirais, moi, mes parents, ils ont voulu aux Allemands, ils parlaient des Boches, moi, plus, parce que. Et cette tension, elle a disparu entre la France et l'Allemagne. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est un peu le pardon, c'est enlever ce lien négatif entre moi et celui qui m'a agressé. Ce qui n'enlève rien, ce qui n'implique pas oubli, ce qui n'implique pas qu'il a tort, ce qui n'implique pas qu'il doit être à la prison. Mais ce lien a disparu et ça retombe. Et c'est nécessaire pour qu'on ait moins de guerre, hein, de toute façon.
Oui, disons, il y a forcément l'aspect psychologique dans le pardon, effectivement, de la tension, de la colère qui retombe, mais c'est sûr qu'il y a forcément quelque chose de plus, puisque l'oubli, c'est déjà la colère qui retombe par le fait qu'on n'y pense plus. Et on sent bien que dans le pardon, il y a quelque chose de plus que le simple oubli, le fait de ne plus y penser, quoi. Et effectivement, le point important, c'est ce truc en plus que le simple oubli.
Moi, il ne me semble pas qu'il puisse y avoir pardon sans dialogue et sans explication mutuelle. Je pense que sans ce dialogue et sans la compréhension mutuelle, le pardon n'est pas possible. Et je pense que ce soit individuel ou collectif. Il y a forcément à un moment un échange qui doit se faire sur de compréhension mutuelle sur un acte ou sur la victime ou la personne qui a offensé ou... Il y a forcément deux entités qui doivent agir.
Oui, je voulais faire, disons, un lien entre l'humilité et le pardon. Parce que des fois, je pense qu'il faut, disons, s'asseoir un petit peu sur une forme de fierté aussi pour pardonner, excuser et... C'est vrai que c'est une fonction fondamentale quand on y pense, parce que ça fait un bien fou, des fois, de pardonner. Et j'ai une petite image qui m'est apparue dans la tête assez rapidement. Dans la rue, effectivement, on a beaucoup parlé de la porte qui claque, l'épaule qui prend le contact avec l'autre épaule. Mais quand ça arrive dans la rue, et qu'on a un geste immédiat de pardon, mais tout est pardonné immédiatement. C'est une fonction qui est formidable. Moi, personnellement, voilà, j'ai un petit geste, je je suis mais heureux, complètement heureux. Et la deuxième notion, c'était le temps, puisque pardonner, c'est aussi dans la durée, finalement, pas oublier, je dirais, mais estomper certains sentiments qui peuvent être vifs, qui peuvent être puissants, quand quelque chose, quand quelqu'un nous a fait quelque chose de difficile. Donc, le temps soigne un petit peu les blessures et peut-être amène vers le pardon.
La question que je me pose est, est-ce qu'on peut pardonner quelque chose qui n'est pas réparable ? Je prends, par exemple, on a entendu parler des nazis tout à l'heure, on ne leur a pas pardonné, mais on a fait en sorte qu'ils ne puissent plus jamais s'armer. C'est une question qui a été décidée par les alliés, et comme les alliés n'avaient plus d'armée, on était un peu tranquille de ce côté-là. L'autre sujet, on peut pardonner à un pédocriminel, sachant qu'il a détruit des vies qui ne sont pas réparables. Comment on fait pour... Est-ce qu'on s'occupe de le faire en sorte qu'il ne puisse plus récidiver ? La même chose pour les terroristes. Est-ce qu'on pardonne ou est-ce qu'on fait en sorte d'éviter à ce que le mal se reproduise pour les autres ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut pardonner.
Oui, en tout cas, il est question de la gravité particulière de certaines actions. En un sens, rien n'est réparable. De toute façon, on nous a forcément gâché des biens, du temps, de l'énergie, où il y a forcément une perte. Après, au-delà d'un certain seuil, la perte est tellement immense qu'il n'y a même pas de compensation ou de dédommagement possible. Mais en un sens, on ne peut avoir que des dédommagements. Il y a toujours forcément quelque chose qui est brisé. Mais c'est vrai qu'au-delà d'un certain seuil, on a l'impression que la relation peut être complètement rompue définitivement. Effectivement, oui.
Alors, j'ai pas de réponse pertinente à apporter à la question qui vient d'être posée, mais en fait, au tout début du débat, je m'étais noté une petite remarque, donc un peu cliché, mais qui était que pardonner, c'est un petit peu comme désinfecter une plaie ouverte, c'est-à-dire qu'au début, ça pique un peu de pardonner, de dire je te pardonne, alors que c'est pas encore totalement vrai, ou alors même rien que de le dire et de mettre de côté un petit peu sa fierté pour dire bon, c'était pas si grave, de temps en temps ça l'était, je dis pas. Mais ça pique, mais finalement. À la fin, avoir désinfecté, ça, c'était bénéfique parce que la plaie maintenant, elle se porte mieux. Tantôt elle a cicatrisé complètement, tantôt elle laisse, enfin, elle cicatrisé, de temps en temps elle laisse une cicatrice, de temps en temps elle repart complètement. Mais au fur et à mesure en fait que le débat avance, on me rend compte que ma métaphore un peu cliché marche encore. C'est-à-dire que pardonner, c'est aussi, enfin, ça marche pour la plaie, mais ça marche aussi pour la lame. C'est-à-dire que cette lame de pardonner, c'est aussi un petit peu de la nettoyer, et puis à la limite, histoire qu'elle ne puisse pas s'aiguiser de nouveau, chercher ce qui l'a aiguisé, cette lame. Si c'est par exemple dans le cas extrême d'un meurtre, ce qui a pu être la motivation qui a pu motiver ce meurtre, guérir la plaie elle-même qui a causé. Attendez, parce que là je suis en train d'envoyer. faire en sorte que la lame pardonne elle-même à ce qui l'a aiguisé afin qu'elle ne veuille pas retourner s'aiguiser à cet endroit-là et aille plutôt dans le tiroir pour finir.
Pardonner serait se débarrasser d'une infection. C'est ça, en se désinfectant une plaie qui est en nous. C'est très l'idée.
Eh bien, si c'est mon tour, je viens y mettre un petit peu de mes idées. Les êtres peuvent réagir sous la pression économique, sous la pression politique ou sous la pression religieuse. Alors, est-ce que ce sont eux qui font violence ou est-ce que ce sont les idées qui les ont manipulées, qui sont responsables de ça ? Je pense, on a parlé tout à l'heure de l'Allemagne nazie. Alors, les Allemands sont peut-être pas plus méchants que les Français ou que les Russes ou que les autres. C'est juste que sous un régime comme ça, est-ce que eux avaient le choix ? Quand on est sous l'emprise d'un tel régime, eh bien, tous les enfants de ces générations ont été des jeunesses hitlériennes. Et moi-même, si j'avais grandi dans les années 30, j'aurais été également dans les jeunesses hitlériennes. ou bien exclue de la société parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de choix. Donc, je voudrais simplement apporter l'idée que le genre humain est assujetti à ces idéologies. Alors, on pourrait parler également de la logique économique qui broie des millions de personnes de par le monde, surtout dans les pays émergents, ou des croyances, je dirais pas spirituelles, je dirais religieuses. On les voit dans le cercle du Proche et Moyen-Orient aujourd'hui. Et ça a donné des gens qui, par fanatisme, ont fait le Bataclan et sont capables de pires horreurs encore. Donc mon idée, là, que je voulais soumettre, c'est quand on est sous l'emprise d'idéologies, de systèmes de croyances comme ça, est-ce que on ne pourrait pas essayer de se défaire de ces systèmes de pensée? Alors on peut pardonner aux personnes physiques, hein, ça c'est sûr, mais c'est ça que je voulais amener ce soir.
Oui, tout à fait. Il y a des questions de responsabilité collective ou de responsabilité du système auquel on participe. Souvent, vous savez, c'est un peu la réplique des méchants, c'est ça n'a rien de personnel. Donc voilà, tu vas perdre ton travail, t'es licencié, mais non, mais c'est pas parce que je t'aime pas, ou voilà, tu ragages qui tue quelqu'un en disant non, mais je n'ai rien contre toi, c'est juste qu'on me paye pour ça. Enfin, effectivement, là, dans ce cas-là, c'est pas une responsabilité vraiment personnelle, c'est plus la responsabilité du système dans son ensemble, avec la question évidemment si il peut vraiment être responsable à titre de système. Et qu'est-ce qu'un pardon serait un pardon adressé à un système? Ça n'a aucun sens. Enfin, à première vue, en tout cas.
Plus j'entends les débats, plus je me dis que le pardon, il y a une forme de nécessité sociale. Enfin, ce serait un moyen de résoudre la loi du talion, dans l'idée œil pour œil, dent pour dent. Si jamais quelqu'un nous fait quelque chose, on aurait envie justement de rééquilibrer. Et plutôt que d'utiliser la vengeance et qu'on soit dans un cycle infernal de violence, bon, bah, le pardon, ça peut être une stratégie sociale intéressante, même si je pense que ça ne marche pas dans tous les cas. Et dans ce cas, il y aurait peut-être des systèmes de justice qui mettrait un châtiment comme la prison, qui permettrait de rééquilibrer. Mais qu'en tout cas, d'un point de vue social, je pense que voilà, le pardon serait une stratégie pour permettre une paix sociale et une paix aussi peut-être personnelle. Parce que, par contre, je suis pas sûre que le temps soit quelque chose de si efficace, pour le coup. Peut-être que pendant un temps, ça va endormir une contrariété, un sentiment d'injustice, mais ça peut être réactivé très très facilement n'importe quand. Par exemple, on peut voir l'exemple des gilets jaunes, si on parle un peu de politique, où il y a un grand soulèvement, après il y a eu le Covid et il n'y a pas eu grand chose, mais la moindre contrariété, il y a des nouveaux soulèvements. Et je pense que même à titre personnel, bon, il y a quelqu'un qui nous a fait un truc, ok, on dit plus rien, on passe, mais il refait quelque chose, bah, tout de suite on va être beaucoup plus énervé que si c'était la première fois. Donc le temps, voilà, je pense pas que ce soit suffisant, il faut qu'il y ait quelque chose de plus.
En tout cas, oui, c'est une autre façon de voir les choses, intéressante, et peut-être même, je pense, plus centrale encore, c'est l'aspect moral, c'est un peu ce que vous suggériez, c'est-à-dire au fond, du mal a été fait quelque part dans le monde. Il y a du mal quelque part, et disons le pardon est une façon de le nettoyer, équivalente à la façon qui consisterait à punir sur le mode œil pour œil, dent pour dent, quoi, qui lui aussi reviendrait à supprimer le mal en rajoutant en fait une sorte de vengeance purificatrice, quoi, quelque chose comme ça. En tout cas avec l'idée de se débarrasser du mal dans le monde, plutôt qu'avoir une approche plus psychologique où on se soucie de son bien-être.
Merci. Pour revenir sur le fait qu'il n'y a peut-être pas tout qui est pardonnable, moi au contraire je pense que oui, tout est pardonnable, dans le sens où chacun peut avoir ses raisons, on peut les prendre en compte ou pas. Moi j'essaie de toutes les prendre en compte, même pour les choses les plus ignobles qu'un humain peut faire. C'est aussi une façon de le réaccepter dans la société que de dire ok, bah t'as fait ça, Mais pardonner, c'est aussi savoir que la personne en face qui est pardonnée, peut-être la question de est-ce qu'elle a prouvé qu'aujourd'hui, maintenant, elle est capable d'avoir à nouveau la confiance. C'est aussi une question, ça, la confiance qu'on accorde à quelqu'un dans le pardon qu'on lui donne. Pour rebondir sur ça, et aussi sur ce que quelqu'un il y a quelques temps avait dit, je suis désolée, c'est la fierté. Cette personne, cette dame, pardon, disait que c'est faire preuve d'humilité, donc de mettre un peu sous le tapis sa fierté pour pardonner. Moi, au contraire, je pense que pardonner, ça peut partir aussi d'une fierté assez proéminente, on peut dire, dans le sens où on se dit je suis au-dessus de l'action que cette personne a faite, et pour mon propre bien, parce que je me considère peut-être mieux, même, on peut oser le dire, que cette personne. Je pense que cette action n'a aucune importance et que quoi qu'elle fasse, je m'en fiche, en fait. C'est ça l'idée principale que je voulais évoquer. Et du coup, donc, et pour reprendre en dernier point la métaphore qui a été utilisée, cette lame qui a coupé, cette lame aujourd'hui peut être émoussée, je pense, et est-ce qu'elle a vraiment besoin d'être rangée au tiroir et d'être évincée? Moi, je pense qu'au contraire, on peut aller peut-être la réaiguiser tout en la couvrant, en faisant en sorte qu'elle ne puisse plus faire du mal. Mais en même temps, et tout dernier point promis, c'est une énorme responsabilité de pardonner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de la juridique qui peut parler à tout le monde, je pense. Pardonner, c'est dire « Ok, je prends sur moi la responsabilité que cette personne ne refera plus la même erreur ». N'ira plus couper quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est une nécessité, certes, mais je pense qu'il faut faire avec un très grand recul et surtout ne pas être seul à le faire.
Alors, peut-être d'abord une remarque sur ce qui a été dit deux interventions avant sur la loi du talion. Il y a des sociétés qui manient bien la foi, la loi du talion et le grand pardon. Je ne suis pas spécialiste, mais voilà, il y a le côté œil pour œil, dent pour dent, mais en même temps, il y a un moment où, justement, il faut pardonner. Et là, c'est du pardon de groupe par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Sauf que derrière, on n'a pas un seul événement qui touche tout le groupe, mais chaque individu du groupe doit faire ce travail de pardon. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais je crois que c'est un peu ça l'idée. Avec tout ce qui a été dit là, ce soir jusqu'à présent, j'ai vraiment le sentiment que le pardon, c'est un truc un petit peu magique, en fait, entre deux individus, qui fait que chacun peut y trouver du bénéfice. Entre deux individus pour lesquels il s'est passé un événement qui a fait qu'il y a la tension dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, donc c'est ce truc un petit peu magique, là, assez difficile à définir, qui peut permettre pour les deux, peut-être qu'un des deux ou les deux ne le voudront pas, mais qui permet d'avancer et de continuer. Ça, c'est quelque chose qui a été évoqué aussi, et je suis persuadé que c'est une composante très importante de pouvoir continuer à avancer. Je prendrai aussi un exemple assez concret, par exemple, quand on conduit, puis quelqu'un fait une queue de poisson, que ce soit volontaire ou pas, peu importe, il y a différentes réactions et il y a des gens qui peuvent réagir en accélérant, en essayant de suivre cette personne, lui faire la même chose. Mais quand on y réfléchit, c'est la double peine finalement, parce qu'il y a déjà un truc qui vous a été fait, et la deuxième peine, c'est que vous vous infligez vous-même une peine, et c'est un peu comme si cet autre individu avait pris le contrôle de votre esprit. Et vous obligez en fait à faire quelque chose qui en fait ne répare rien et qui est vraiment, vraiment négatif à mon avis. Donc voilà, il y a cette idée, je pense, vraiment très importante d'arriver à passer à autre chose. Et peut-être que finalement le pardon, c'est ce qui nous reste quand on n'arrive pas à oublier, justement.
Dans l'exemple, c'est on pardonne parce qu'on a la flemme ou qu'on a peur. Il y a un chauffeur qui nous fait une queue de poisson, il a l'air costaud, bon, je le pardonne, ça va, finalement. Oula, ouais, il est déjà loin, je ne vais pas le poursuivre. Non, sans blaguer, il y a dans l'idée de magique, en fait, c'est vrai qu'il y a l'idée que c'est des mots magiques, finalement. Pardonner, il suffit de le dire, et pouf, c'est fait. C'est quelque chose d'en philosophique, un terme au départ un peu technique, et qui est devenu beaucoup plus populaire, c'est l'idée de performatif. C'est quand je le dis, ça le fait, quoi. Effectivement, si je dis je pardonne, bah ouf, là, le pardon est donné. Et effectivement, il y a effectivement ce côté magique de pouvoir le faire juste en le disant.
On a évoqué à quelques reprises que le pardon est une notion importante, notamment dans les religions monothéistes, et je me demandais si, dans cet effort de définir ce que c'est le pardon, on ne pourrait pas donc rester dans ce registre et approcher le pardon comme étant un acte de foi. Donc la jeune fille, justement, elle a parlé de la notion de confiance, donc c'est lié à cette approche. Et on parlerait ici d'un acte de foi, non pas envers une divinité, mais envers autrui, donc en fait un acte qui serait ouvert même aux non-croyants. Moi-même, je suis agnostique, donc je m'estime capable de pardonner, même si à titre personnel, j'estime que c'est très difficile. Je dis souvent que je suis maudit par ma bonne mémoire, et que c'est ma mémoire qui m'empêche souvent de pardonner. Et donc en fait, le pardon, dans cette perspective, serait un acte de foi, un acte de confiance. J'ai confiance en le fait que cette personne, elle s'est amendée, elle comprend la gravité de son geste, et donc je lui accorde, alors pas le bénéfice du doute, mais en tout cas je lui accorde ma confiance. Ce qui pose en revanche la question des risques qu'il y a à pardonner. Madame tout à l'heure disait, en pardonnant, la personne comprend la gravité, et donc on peut espérer qu'elle ne récidivera pas. Mais il y a aussi le risque inverse, c'est que la personne se dise, puisqu'elle m'a pardonné, ben je recommence. Après tout, on entend souvent ça dans les histoires d'adultère, de tromperie entre conjoints. Il m'a trompé, je lui pardonne. Ah ben il m'a retrompé, et je lui repardonne encore. Donc en fait, il y a cette dimension de à la fois pardonner pour espérer que la personne comprenne, mais si, comme elle le disait, la personne elle fait preuve de cynisme, ben elle se dit, ben, je continue. Donc, parce qu'en fait, quand on dit, si on approche le pardon comme un acte de foi, de confiance, ben en fait, il y a le risque de se tromper. On peut avoir confiance en quelque chose et se tromper. Donc, je pense qu'on peut mobiliser cette notion de faire confiance, d'accorder sa foi à autrui dans cette définition du pardon.
Oui, non, je pensais à Steve Jobs, parce qu'il a été dans une première entreprise, il a été foutu à la porte, et après, ben, c'était bénéfique pour lui parce qu'il a créé Apple après. Donc, il pouvait pardonner à son ancien employeur, enfin, il pouvait le remercier, quoi. Mais il y a d'autres personnes qui sont foutues à la porte d'une entreprise et qui n'arrivent pas à se reconstruire. Et là, si économiquement, ils ne retrouvent plus pied, enfin, ils finissent SDF, c'est difficile, je pense, enfin, ça dépend toujours de la situation où on se trouve. Une personne qui n'arrive pas à se reconstruire économiquement, c'est difficile de pardonner, quoi. Donc, je pense que c'est aussi relatif à des situations comme ça, quoi. Enfin,
oui, en plus, il a été éjecté de sa propre boîte Apple avant d'y revenir et connaître un grand succès, alors que quand il en est parti, effectivement, Apple végétait, marchait très mal. Et, en fait, il doit la remontée d'Apple. En fait, enfin, Apple doit sa remontée en grande partie grâce à son retour, après avoir été effectivement éjecté de façon un peu dure, rude.
Après, moi, je pense que le pardon, c'est de plus en plus compliqué dans notre société actuelle, notamment, parce que il y a beaucoup de personnes, enfin, l'ego grossit beaucoup, et on avait parlé du rapport entre le... Je suis pas trop d'accord avec ce qu'a dit ma camarade, parce que je pense que c'est plutôt mettre sa fierté de côté, de demander pardon, et accepter de se remettre en question, de se dire « oui, j'ai mal agi, est-ce que tu pourrais me pardonner ?» Et donc, je pense que c'est notamment... Il y a la guerre dans le monde, et si tout le monde pouvait remettre ses fautes sur le côté et essayer de pardonner les autres, ça pourrait améliorer de nombreuses situations conflictuelles à l'échelle internationale.
Mmh. Alors, tout à l'heure, c'était Monsieur Labatte qui avait soulevé très rapidement juste la question de la pédocriminalité. Allez, pédocriminalité. Trop de syllabes. Et ça m'a, enfin, je me suis interrogée dessus parce que c'est vrai que c'est ce genre de crime, comme Madame Labat encore parlait des grands responsables d'entreprises pharmaceutiques, c'est des espèces de crimes. On n'arrive pas toujours à s'expliquer, se donner une raison pourquoi. Alors à la limite pour les grands responsables d'entreprises pharmaceutiques, on peut se dire bon bah c'est pour l'argent. Je dis pas que c'est une bonne raison, je dis que c'est une raison. En revanche, les pédocriminalités, je ne vois que la cruauté pure que ça peut être, d'infliger ça à un enfant, de ruiner une vie qui, dans le cadre de la pédocriminalité, n'a pas encore commencé. Donc ça revient aussi à la notion du début, qui était de s'expliquer quelque chose afin de le pardonner. Ce crime, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qui relève du psychopathe, selon moi, ou au moins du sadique. Mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui forge une personne dans le mal comme dans le bien. Dans le mal, parce que ça peut soulever des troubles psychologiques, un trouble d'hypersexualité par exemple, ou encore une assimilation de la notion de violence à celle d'amour, qui vont troubler une personne jusqu'à la fin de sa vie. D'un autre côté, ça développe aussi l'empathie d'une personne, et ça peut aussi, dans beaucoup de cas, par exemple, on retrouve souvent des avocats, avocates, qui ont été victimes de ces violences dans leur passé, et qui se sont dit, en fait, je ne veux pas que qui que ce soit d'autre doive traverser l'horreur que moi j'ai traversée, et je veux faire changer les choses, et je veux faire bouger les choses, et je veux qu'on sanctionne les personnes qui m'ont fait subir ça et qui ont fait subir ça à d'autres personnes. Dire ça, c'est un petit peu donner raison à la vengeance plutôt qu'au pardon, mais je pense que ces personnes-là, elles ont quand même fait un cheminement de pardon. Mais aussi, pardonner, pour moi, donc pour revenir aussi à ce que mon ami a dit tout à l'heure, pardonner, c'est pas forcément endosser la responsabilité la responsabilité de l'avenir, en fait. C'est pas endosser la responsabilité que... je pardonne à cette personne, donc je me porte garant que cette personne ne va pas reproduire son erreur à l'avenir, non. Pardonner, ça tient plutôt du passé. C'est passer autre chose par rapport à ce qui a été fait précédemment, mais se dédouaner du coup du sort de la personne à l'avenir. Donc pardonner, encore une fois, donc pour revenir à mon cas de pédocriminalité, c'est pardonner à la personne qui nous a fait subir cette souffrance, mais pour autant prendre cette fois en même temps la responsabilité de ce que cette personne va faire à l'avenir. Mais c'est deux notions qui sont très différentes et que je pense qu'il ne faut pas confondre.
Disons, est-ce que la sanction, c'est ça, est tournée vers le passé, punir un mal qui a été fait dans le passé, ou bien au contraire tourner vers le futur, c'est-à-dire éviter que des nouvelles actions soient renouvelées, reconduites, etc. En se demandant le rôle de la justice, effectivement, la justice peut agir à la fois sur le passé pour punir une faute passée, ou bien se dire on prévient les futurs crimes, etc. etc. C'est effectivement deux logiques différentes. Après, sur cette question de la pédocriminalité, crimes sexuels, etc., la justice a régulièrement aussi recours à l'obligation de soins. Donc, qui dit obligation de soins dit trouble mental ou trouble psychique, et donc trouble dont la personne n'est pas responsable, puisqu'on ne choisit pas d'avoir un trouble mental, forcément. Donc, à partir de là, la question de la responsabilité morale et du pardon se pose différemment, je veux dire, en tout cas. On ne peut pas simplement considérer que la personne est 100% responsable, dans la mesure où on considère elle-même qu'elle est... Les victimes sont une forme de trouble, quoi.
Juste pour répondre, selon moi, pour résumer, c'est que pardonner, ça concerne le passé, et sanctionner, ça concerne le futur. Et pardonner ne veut pas dire ne pas sanctionner, et sanctionner ne veut pas dire mettre une croix sur le pardon. C'est juste deux notions qui sont différentes et qui sont rattachées à deux temps différents.
Oui, on a parlé à plusieurs reprises de la justice, et moi je ne suis pas très sûre que la justice soit concernée vraiment par le pardon. Je pense qu'elle est plus concernée par faire ce qui est bénéfique pour la société. Alors aujourd'hui, on est dans une passion de la punition, on n'a jamais autant emprisonné les gens alors que la délinquance et la criminalité baissent, donc c'est un petit peu étonnant. les prisons françaises non seulement débordent, mais la Cour de justice des droits de l'homme et de l'Union européenne a décrit des conditions inhumaines et dégradantes. C'est pas très glorieux. Et je me dis, quand on a enfermé un délinquant dans des conditions inhumaines et dégradantes, qu'est-ce qu'on peut espérer à la sortie ? Est-ce que ça va vraiment apporter un bénéfice à la société, ou est-ce qu'on ne va pas, pour reprendre un terme à la mode, l'avoir encore ensauvagé un petit peu plus ? Et je voudrais prendre un contre-exemple, celui de Bernard Stiegler, qui a été un braqueur toulousain. Donc faire un braquage, c'est pas anodin. Et il a dû être enfermé dans des conditions qui n'étaient ni inhumaines ni dégradantes, parce qu'il a fait ses études de philo en prison. Il est devenu un philosophe spécialiste des nouvelles technologies reconnues sur le plan international. Et pour avoir eu le privilège de le faire venir à Orléans, je peux dire que c'était quelqu'un d'une générosité et avec des qualités humaines tout à fait exceptionnelles. Mais cela dit, je ne crois pas que la justice ait pardonné à Bernard Stiegler. Ce n'est pas du même ordre, ce n'est pas dans le même registre, me semble-t-il.
Sans être vraiment du tout spécialiste du sujet, j'ai l'impression que la place qu'on donne aux familles et aux proches est liée au fait qu'on a quand même envie que ça participe de ce jeu des excuses et du pardon. Et qu'au fond, si les proches sont là, c'est ce qu'ils attendent, eux, c'est d'abord une sorte de pardon ou de demande de pardon, quelque chose comme ça. Eux, sinon, en un sens, pourquoi les faire participer au procès ? Dans la mesure où si vraiment tout le procès était uniquement lié au besoin qu'a la société de se protéger, de rééduquer, ben, les proches de la victime n'auraient aucun rôle particulier à jouer là-dedans. Enfin, c'est une idée comme ça, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est vrai que si la famille est là, c'est sans doute pour ça, quoi.
Juste une référence qui me vient à l'esprit à vous écouter. Vous avez peut-être vu, comme moi, ce film, une fiction, « Je verrai toujours vos visages », qui évoque ce qui commence à se développer dans le système judiciaire français et puis dans d'autres systèmes de par le monde, de ce qu'on appelle la justice dite restaurative, où des victimes sont partie prenante d'un dialogue avec des condamnés d'un crime équivalent à celui dont elles ont été, qu'elles ont subi, dont elles ont été victimes, elles ou leurs proches. Et c'est ce film met en scène finalement ces trois phases, d'abord de la difficulté de se lancer et le courage qu'il faut pour se lancer dans ce dialogue, ensuite effectivement de cette période d'appréhension et de compréhension, où on revient un peu à ce qui a été dit à un moment donné, mais j'essaye de mettre des mots sur la logique qui a pu présider au déroulé du crime, et jusqu'à, alors je ne sais pas si on peut parler de pardon, mais en tout cas effectivement une sorte d'entente réciproque où chacun finalement gagne à la découverte de l'autre. La victime comprend que derrière le criminel il y a une humanité et des raisons qui ne sont sans doute pas défendables, mais il y a des raisons, et le criminel comprend que derrière les victimes et devant les victimes surtout il y a des visages. Et je trouve que effectivement, c'est une façon de réintégrer du pardon dans le domaine de la justice, alors même qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai pris la parole, parce que Marie-France m'y a fait penser, alors même que la logique de la justice et la logique du pardon peuvent sembler contradictoires, parce que la logique donne à chacun ce qu'il mérite ou ce qu'elle mérite, de manière effectivement anonyme, impartiale, et ce pourquoi elle est juste, alors que le pardon est censé dépasser finalement, et voire même effacer d'une certaine manière, ou aller au-delà de ce que mérite l'autre. Et donc je pense que voilà, cette justice restaurative, elle ouvre finalement la possibilité peut-être d'un pardon au sein même de la logique judiciaire. Et juste un dernier mot, vous avez peut-être entendu comme moi là, cette semaine que Salah Abdeslam, par la voix de son avocate, s'est dit prêt à entrer dans ce processus de justice restaurative avec certaines des victimes du Bataclan et des attentats du 13 novembre. Et que certaines victimes, notamment le père d'une certaine Lola, dit qu'il était prêt à entrer dans ce processus. On verra bien la suite.
Si c'est à moitié une blague, je pense que c'est un peu sérieux, mais un peu une blague. L'ancêtre de la justice restaurative, on voit ça dans les films de mafia. Je ne sais pas si vous connaissez la série Tony Soprano. Les gangs italiens aux États-Unis font la guerre entre eux, ils se tuent, etc. Et puis bon, au bout d'un moment, quand même, ils se mettent autour d'une table, autour de Tony, puis ils discutent, ils disent bon, ouais, ok, je suis d'accord, je m'excuse, bon, on va s'arrêter là, on va faire comme ça, etc. etc. Ma blague est à moitié sérieuse au sens où je veux dire, j'ai l'impression que conceptuellement, l'idée du pardon implique la possibilité de se venger fort et de taper fort aussi. La justice restaurative a cette différence que la personne qui va voir Salah Abdeslam, si on prend cet exemple, ne risque pas de l'assassiner dans les minutes suivantes, quoi. Et je pense que fondamentalement, ça change beaucoup de choses. Et je dirais que, enfin, je sais pas, mais en tout cas, je pense que cet aspect de possibilité d'une vengeance forte, féroce, fait partie du jeu du pardon quand même aussi. Sans quoi, il est un peu désamorcé, quoi. C'est le truc un peu psychologique qui apaise tout le monde, mais...
Et bonsoir. Pour moi, la notion de pardon, elle a plusieurs niveaux, plusieurs degrés, parce que il faut déjà, en effet, pour pardonner, je crois qu'il faut déjà que la personne qui a fait la faute, elle le reconnaisse avant toute chose, et c'est là que l'on peut éventuellement donner son pardon à cette personne. Donc, je crois que ça commence déjà avec ça. Voilà.
On peut conclure peut-être, ou par si quelqu'un veut ajouter un dernier commentaire. Oui, alors, ce à quoi je pensais effectivement, et c'est aussi un peu pour rebondir sur votre dernière remarque, c'est justement la question des personnes qui ne changent pas d'avis. Je pense que le cas de Salah Abdeslam aujourd'hui est intéressant parce qu'il a été pris il y a quelques jours sur le fait avec un ordinateur, probablement des vidéos, je ne sais pas, de propagande islamiste ou quelque chose comme ça, mais au fond, ce n'est pas le premier dans l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez le célèbre cas de Adolf Eichmann, pardon. Tel que Hannah Arendt en parle dans Eichmann à Jérusalem, enfin, il est très clair que Eichmann ne va pas changer d'avis. Il ne va certainement pas, il était totalement convaincu. Il est reparti en Argentine à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour remonter un club entre les quelques nazis qui restaient. Et il n'a pas émis le moindre remords tout au long de son procès, et clairement, il n'a pas changé d'avis. Donc là, je pense qu'il est évident que le pardon n'est pas possible sur quelqu'un qui refuse absolument de changer d'avis, qui ne regrette absolument pas ce qu'il a fait. Et je pense que là, pour le coup, la question vraiment est assez fondamentale, au sens où Arendt, parlant de Eichmann, considère qu'il doit être tué et que ça ne fait absolument aucun doute, quoi, que la peine de mort doit s'appliquer à lui, que l'idée même de le pardonner est absolument absurde. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas, le tribunal à Jérusalem dire « Bon, ben écoute, allez, une petite tape dans le dos, c'est bon, pardonne, tu peux repartir. » Ça aurait été presque obscène à l'égard des victimes. Je veux dire par là que on présente évidemment le pardon comme une bonne chose, quelque chose de noble, de respectable, etc. Il a aussi un côté peut-être négatif, au sens où est-ce qu'en fait, dans certaines circonstances, le respect maximal à l'égard d'une personne, c'est peut-être pas justement de la punir comme elle le demande et comme elle le mérite. En tout cas, pour Eichmann, c'était clair que, du point de vue d'Arendt, il était hors de question de pardonner. Je pense que à partir du moment où la personne ne manifeste pas une demande, il est clair que l'idée que le pardon soit une bonne chose est embarrassante, ambiguë. Enfin, pourquoi pardonner à quelqu'un qui refuse le pardon? Pourquoi pardonner à quelqu'un qui est absolument méchant et qui ne manifeste pas de refus, enfin, de doute ou d'hésitation ou de remords, et quelque chose comme ça? Là encore, si on repense par comparaison à ce que disait Robert Badinter sur sa plaidoirie pour l'abolition de la peine de mort, sa plaidoirie, en tout cas son discours plutôt, qu'il a prononcé en octobre 81, Robert Badinter finit son discours en disant « Personne n'est absolument mauvais ». Je pense que le point essentiel du pardon, c'est ça, c'est de se dire « Si personne n'est absolument mauvais, alors le pardon est toujours possible pour toute personne ». Et qu'au fond, soit la personne n'était pas complètement responsable, soit au fond, il y a une petite lueur de bien quelque part sur laquelle on peut rebondir. Si par contre, la personne est absolument mauvaise, comme ce que pensait finalement Arendt au sujet d'Eichmann, Alors dans ce cas-là, le pardon n'est plus une bonne chose, au contraire, c'est encore une façon de rajouter du mal au mal. C'est-à-dire, il y a eu du mal, et en fait, en refusant, enfin, en donnant le pardon, on valide ce mal qui a été fait plutôt que le nettoyer finalement. Donc je pense en un sens qu'au fond, la question qu'on pose, ce que je suggérais, je crois, à l'une d'entre vous, c'est de dire au fond, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que tout le monde est dans ce niveau un peu intermédiaire entre totalement méchant ou parfaitement innocent? Est-ce qu'il y a tout le monde vraiment est dans cette zone où on est fautif mais pas complètement? C'est là où le pardon se joue. Je pense que derrière tout le débat, c'est ça, c'est est-ce qu'on trouve vraiment encore des êtres humains qui sont dans la catégorie des vraiment méchants, purement méchants, sur lequel il n'y a pas de négociation, pas de compromis possible. Je pense qu'au-delà d'un certain point, tout le monde a l'air de penser qu'au fond, il y a des gens fondamentalement méchants. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas forcément d'avis très net, c'est évidemment une question difficile, mais s'il y a des personnes fondamentalement méchantes, le pardon serait fondamentalement injuste. Et je pense que quand on discute du cas d'Eichmann, voilà, est-ce que les gens se disent la peine de mort n'était pas justifiée dans ce cas-là, je ne sais pas. Cas contemporains, évidemment, de très grands méchants sont un peu dans cette même situation. Donc voilà, la question c'est est-ce que le mal radical, fondamental chez les gens existe? Si oui, le pardon n'est pas toujours bon. Merci à vous. Merci.
Vous attend. Cette fois-ci, on va le faire dans la salle, on n'a pas accès à la cafétéria, mais en revanche, on veut bien un petit coup de main pour rentrer, empiler les chaises avant.
Ça marche.
D'avance, merci.